La malice des jours. Chapitre 7. 20e dimanche après la Pentecôte. Mettez le temps à profit, car les jours sont mauvais. Éphésiens, verset 16. L'épître de ce dimanche nous suggérera bien des réflexions. Elle gravite toute autour de la première phrase qui exprime l'idée centrale de cette péricope. Saint Paul nous adjure de ne pas nous laisser étourdir, mais d'agir avec précaution comme des hommes prudents. « Mettez le temps à profit, nous dit-il, car les jours sont mauvais. » Certes, en aucun cas nous n'aurions d'excuses à gaspiller le temps si précieux que Dieu nous accorde pour accomplir l'œuvre de notre vie, c'est-à-dire pour faire de notre vie le chef-d'œuvre que couronnera le Seigneur. La fuite rapide des jours nous oblige à n'en pas perdre une minute, dosant sagement l'alternance des heures de travail et des moments de repos. Cependant, l'apôtre invoque ici un motif spécial pour stimuler notre activité. C'est que les jours sont mauvais. L'insensé s'abandonne aux heures qui passent et qui le trompent. Le sage, au contraire, les met à profit. Remarquez le texte latin « Redimentes tempus ». Il s'agit de racheter la malice des jours, d'en faire un usage d'autant plus excellent qu'ils sont moins bons. Mais que faut-il entendre par ces mauvais jours? Diverses acceptations sont plausibles, qui contiennent chacune leur leçon. Les mauvais jours sont en général ceux que nous vivons. Les traditions des peuples placent l'âge d'or dans les lointaines origines de leur civilisation, et l'on entend dire couramment que les générations qui nous précédèrent ont connu une douceur de vivre que nous ignorons. Quel moraliste de n'importe quelle époque n'a dénoncé les mœurs de son temps comme s'il n'y en avait jamais eu de pire? Si ce ne sont là que des vues pessimistes, convenons toutefois qu'elles ne sont pas sans fondement. Le mal et le malheur sont, hélas, de tous les temps, mais les humains sont ainsi faits qu'ils ne manquent pas de s'appesantir sur ce qui leur advient de fâcheux, alors qu'ils goûtent la tranquillité relative des jours heureux sans paraître la remarquer, tellement ils la considèrent comme le lot qui leur est dû. On ne saurait, évidemment, attribuer ce lieu commun à saint Paul quand il déplore que les jours sont mauvais. L'apôtre écrivit la lettre aux Éphésiens au cours de sa première captivité à Rome, où, bien que prisonnier pour la cause du Seigneur, il jouissait d'une demi-liberté qu'il employait à la prédication de l'Évangile. Les jours auxquels il fait allusion ne sont pas encore ceux de la persécution que Néron déchaînera prochainement contre les chrétiens, convaincus moins de l'incendie de Rome, au dire de Tacite, que de la haine du genre humain. Paul ne discerne-t-il pas cependant les indices précurseurs de l'hostilité populaire contre la religion nouvelle? Il souffre du moins au spectacle lamentable que présentent les païens de Rome, si peu disposés à recevoir le message du Christ, à donner qu'ils sont au vin et à la débauche. Ce sont de tristes jours qu'ils passent au milieu d'eux et qui en font pressentir de plus mauvais. Il est urgent que les chrétiens de toutes les églises redoublent de ferveur et intensifient leur apostolat. Vous estimerez peut-être, mes frères, que les événements publics vous autoriseraient aussi à qualifier de jours mauvais ceux que nous traversons. Quelques-uns s'attendent au déchaînement d'une nouvelle guerre en constatant les obstacles sans cesse renaissants que soulève le rétablissement de la paix dans le monde. D'autres redoutent les troubles intérieurs qui risquent de surgir dans notre pays. En toute hypothèse, nul parmi nous n'échappe à un sentiment d'angoisse en voyant déferler sur le vieux continent une vague d'athéisme qui renverse toutes les digues l'une après l'autre et menace de tout emporter sur son passage. Si nous nous en tenions à des calculs humains, nous serions bien près de nous décourager, serrés les uns aux autres en attendant la mort. Saint Paul nous répond qu'une telle démission serait coupable. Nous n'avons pas le droit de préjuger les intentions de Dieu, ni d'oublier que la prière est assez puissante pour détourner les fléaux. Que les jours présents soient mauvais, c'est pour nous une raison de plus de saisir toutes les occasions de bien faire et de faire du bien. Rachetons-en la malice en y accumulant des œuvres de foi et de charité. Aérons l'atmosphère de paganisme qui pèse sur notre époque, en manifestant à nos contemporains la vitalité d'un christianisme toujours jeune et agissant. Mais voici une interprétation moins tragique des jours mauvais. L'un de nos plus éminents liturgistes, le cardinal Schuster, explique ainsi le choix de notre péricope pour la messe de ce jour qui, dans les anciens sacramentaires, faisait suite à la fête de Saint-Michel. Les vendanges sont terminées et l'on entrera bientôt dans la mauvaise saison. Adaptation inattendue mais tout à fait licite dans les Dies Mali de l'Épître aux Éphésiens. Pendant les journées plus courtes de l'automne, les travaux des champs sont suspendus et la tentation est d'autant plus forte de se livrer à la boisson que la première quinzaine d'octobre coïncide avec les opérations de décuvage. N'était-il pas opportun de rappeler aux fidèles de la campagne romaine l'avertissement de saint Paul afin de les prémunir contre les dangers du vin nouveau, qu'ils mettent plutôt à profit le temps qui les sépare des labours et des semailles en faisant une plus large place à la prière. Disons le cœur en fait parce que la vendange a été bonne, au lieu de faire chorus aux chants orgiaques des paysans païens qui chantent entre eux les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels des chrétiens. Le conseil serait encore de circonstance dans nos paroisses rurales. Pour nous, citadins, cette époque de l'année marque au contraire, après le retour des vacances, la reprise sérieuse du travail. Écoles, collèges et universités ont rouvert leurs portes à notre jeunesse studieuse. La remise en marche des affaires exige que chacun soit à son poste et fournisse un plein rendement dans un horaire plus serré. Néanmoins, la nuit tombe plus tôt et plus vite. Nous nous acheminons vers les vilains jours. Ce dimanche, ne nous invitera-t-il pas, mes frères, à régler votre saison hivernale, l'emploi de vos soirées, le rythme de vos sorties, la qualité de vos divertissements? Si les écueils à éviter ne sont pas exactement, Dieu merci, ceux que signale saint Paul, il en est d'autres contre lesquels vous devez vous tenir et mettre vos enfants en garde. Les loisirs de l'hiver ne sont pas tous inoffensifs. Veillez à ce qu'ils ne soient pas des occasions de temps perdu ou dangereusement employé. Rappelez le temps que Dieu laisse à votre disposition en l'utilisant aux meilleures fins, à des lectures instructives, à des réunions familiales, à des visites charitables, à des distractions enrichissantes. N'est-ce pas aussi le moment pour tous de s'imposer pour les mois qui viennent un programme de vie spirituelle? Vous n'avez rien à changer au texte de l'apôtre. Rendez grâce toujours et pour tout à Dieu notre Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous montrez pas parcimonieux du temps que vous lui consacrez. Entrez dans une connaissance plus approfondie de la Sainte Écriture. Exercez-vous à la prière d'adoration. Venez rendre grâce avec et par Jésus-Christ en participant au Saint Sacrifice durant la semaine. Et pourquoi ne pas achever la phrase de l'Épître? Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur par des hymnes et des cantiques spirituels. Si vous vouliez un soir par semaine étudier les chants liturgiques du dimanche suivant, quelle beauté vous ajouteriez à nos célébrations dominicales? Ce serait un temps bien racheté. Cependant, la raison décisive de mettre le temps à profit n'est-elle pas que nos jours sont comptés? La messe de ce dimanche, comme toutes celles de cette série, nous prépare à la rencontre du Seigneur. Le chant de l'introïte évoque le tribunal de la souveraine justice où nos péchés devraient recevoir leur châtiment. Usons du temps qui nous reste pour supplier la miséricorde infinie et nous joindre enfin à la compagnie des justes qui observent sa loi. C'est aussi la grâce que nous demandons dans la collecte, le pardon de nos enfants, offense en vue d'un meilleur service de Dieu. L'aliment eucharistique annoncé dans le graduel est le viatique puissant qui nous permet d'entonner au verset alléluiatique le cantique des hôtes du ciel. Désormais, la terre nous apparaît comme un lieu d'exil et nous reprenons, à l'antienne offertoriale, le chant des déportés assis en pleurs le long des canaux de Babylone et soupirant après le jour où ils prendront le chemin de la patrie. Tous ces chants créent une ambiance qui revêt les jours mauvais de l'apôtre de leur dernière et véritable signification. Ce sont les jours de détresse qui préluderont à la parousie. Ce sont par anticipation les jours qui précèdent notre départ de cette terre, les jours de la maladie, de la vieillesse, des infirmités, signe avant-coureur de la reddiction des comptes. Mais parce que l'heure où nous rencontrerons le juge nous surprendra comme un voleur, nous devons nous tenir prêts au départ, afin que ce jour imprévisible ne soit pas un jour de malheur. L'échéance se rapproche à mesure que nous avançons en âge. Profitons de ce délai que d'autres n'ont pas eu pour compenser autant qu'il se peut nos écarts et nos négligences passées. Tandis que le souvenir de tant de grâces inemployées ou repoussées nous inquiète à bon droit, notre miséricordieux Seigneur nous offre les ultimes possibilités de le servir plus fidèlement. Et si nos forces déclinantes limitent le champ de notre apostolat, notre expérience rendra peut-être notre action plus féconde. Rattrapons le temps perdu. Les feuilles de l'automne ont des teintes plus variées et plus belles que le vert uniforme de celles du printemps. La rectitude et l'efficacité des dernières années de notre vie rachèteront les promesses juvéniles que nous n'avions pas tenues. Quelle que soit l'application donnée aux jours mauvais dont parle saint Paul, le moyen qu'il nous indique pour en corriger la malice ne varie point. « Ne vous enivrez pas de vin, source de débauche, écrit-il, mais remplissez-vous de l'Esprit-Saint. » De prime abord, ce rapprochement surprend. Existe-t-il une relation, même de contraste, entre le vin et la grâce? Ne croyez pas à une boutade qui se serait glissée dans une rédaction improvisée, car on remarque cette même opposition dans le message de l'ange annonçant à Zacharie la naissance et la mission de Jean-Baptiste. « Il sera grand devant le Seigneur, dit l'envoyé céleste. Il ne boira ni vin, ni liqueur fermentée, mais il sera rempli du Saint-Esprit. » Luc chapitre 1, verset 15. Bien plus, lorsque, au matin de la Pentecôte, les 120 disciples sortent du Cénacle et se répandent dans les rues de Jérusalem pour proclamer la gloire du Christ ressuscité, les passants sont frappés de stupéfaction et plusieurs prompts à la raillerie ricanent. Ces gens-là ont bu trop de vin doux. Pierre coupe court à la calomnie. Habitants de Jérusalem, ce n'est pas à 9 heures du matin qu'on est pris de boisson. Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ainsi que l'avait prédit le prophète Joël. Acte 2, verset 15. Ces deux passages de l'Écriture éclairent la recommandation de saint Paul. L'action de l'Esprit-Saint dans les âmes y détermine un entrain, un enthousiasme, une exaltation comparable du dehors au coup de fouet passager que procure le vin. Or, dans les jours difficiles, on peut être tenté de demander à la boisson un stimulant ou un oubli. Mais c'est aller au désastre. Le secours dont nous avons besoin pour tirer profit des jours mauvais, cherchons-le auprès de l'Esprit-Saint qui réside et agit dans nos âmes. Nous retrouvons cette leçon dans la strophe bien connue de la séquence de la Pentecôte. « In labore requies, in astu tamperis, in fletu solatium. » Viens, Esprit Saint, repos dans nos labeurs, rafraîchissement dans nos fièvres, consolation dans nos larmes. L'homme aux prises avec les tâches qui épuisent ses forces, in labore, recourt volontiers à l'excitation d'un breuvage fermenté. Accablé par les chaleurs excessives, celles de l'été dans les champs ou celles du feu des usines, il cherche encore à apaiser sa fièvre en buvant inconsidérément. La locution populaire, noyer son chagrin dans le vin, fait penser aux malheureux qui engourdissent leur cerveau pour oublier leur peine, ou qui, pour s'en distraire, tombent dans d'autres griseries plus tristes encore et que saint Paul signale d'un mot « Vino in quo es luxuria ». Mais lorsque le chrétien est impuissant à continuer ses efforts, à lutter ou à souffrir, au lieu de recourir à des excitants ou des anesthésiants, à la colle ou à la morphine, au lieu d'agir sur son corps, c'est son âme qu'il doit fortifier ou calmer. Remplissez-vous de l'Esprit Saint, nous dit l'apôtre. Il allumera dans vos cœurs la flamme exaltante d'une charité qui vous rendra capable de tout affronter, de tout supporter, de tout accomplir. Dans les jours mauvais, l'Esprit Saint nous fera une âme infatigable. Il habite en nous pour nous inspirer le désir de la perfection, la ténacité dans le bien, le courage de surmonter tous les obstacles, la sérénité dans l'insuccès. Le chrétien pénétré par l'Esprit de Dieu n'est jamais là de besogner. C'est en travaillant sous son impulsion qu'il trouve le repos. In labore requies. Au-dedans de nous, l'Esprit qui est feu et charité, force et douceur, calme la fièvre de nos passions et l'inquiétude des dangers extérieurs. Il nous insuffle l'amour de Dieu qui se traduit en bonté pour nos frères. Il nous rafraîchit dans les sécheresses spirituelles comme il éteint les jalousies qui nous dressent contre le prochain. Il change l'amour de soi en don de soi. Il nous établit dans la paix. L'Esprit console enfin les cœurs où il réside. Il nous aide à endurer nos maux. Il rend l'espérance aux pécheurs repentants et la patience à ceux qui souffrent. Il atténue l'amertume des départs et des séparations. Et en nous communiquant la force d'accepter nos douleurs, il les adoucit. Ne prenons donc pas nos points d'appui sur le sable. N'attendons ni des choses ni des hommes les encouragements ou les dédommagements dont nous avons besoin. Le seul remède efficace à nos fatigues est celui que nous promet la secrète de cette messe comme fruit du saint sacrifice. L'hôte très doux de notre âme nous aidera à vaincre la malice des jours. Faisons à Dieu l'offrande de notre temps. Présentons-lui en action de grâce notre travail et notre repos, nos joies et nos peines. Ainsi, les jours les plus sombres, les plus durs ou les plus monotones deviendront des journées utiles, sanctifiantes, méritoires, ensoleillées par l'Esprit Saint.